7h29, parlons à nouveau du décès tragique de cette petite fille à Granby. Tantôt, vous allez entendre le président de la commission scolaire du Val-des-Serres, qui, lui, reconnaît que si on a fait ce qui était prévu, on aurait probablement dû faire plus. Et ce qui se dégage depuis la dernière semaine, c'est de voir tous les enjeux concernant, un, la protection de l'enfance, les services qui sont offerts, des juges qui rendent des décisions, la difficulté qu'il y a un suivi. T'as beau faire des interventions, placer dans tes ordonnances des conditions de suivi, d'encadrement, c'est comme si ça demeurait sur papier. Et ce qu'on découvre aussi, et on le voit depuis la réforme du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, plusieurs se font entendre en disant que cette réforme a comme éloigné les enfants qui devaient être encadrés, qui devaient être protégés de l'appareil. On est devenu avec une approche beaucoup plus, je reprends les propos d'une DPJ du Saguenay, une ancienne là, qui commande ce matin, en disant que les enfants sont devenus comme des patients. J'en parle avec Martin Robert, qui est un travailleur social, qui a été administrateur dans la première mouture là, des fameux conseils d'administration du CIUS en Estrie et qui donne maintenant de la formation. Monsieur Robert, bonjour.
Bonjour.
D'abord, je veux mettre le projecteur ce matin sur les services de proximité. Il y a toujours eu des problèmes avec la DPJ, là, puis les services pour les gens à risque, les gens démunis. Qu'est-ce qui a changé dans la foulée de cette réforme-là?
OK, c'est une grande question. Je vais d'abord situer... Le premier, il y a trois grands changements quant à moi. Le premier, c'est qu'on a recentré l'ensemble du système. C'est-à-dire, nous, ici au Québec, on a un ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, depuis, avec les dernières réformes, peut-être pas innocent de penser que ces dernières réformes-là étaient l'idée par des médecins spécialistes, mais en tout cas, durant les dernières réformes, on a recentré sur le médical. On est devenu plus proche d'un ministère des Affaires médicales. Ça, c'est la première chose qui a changé. On n'a jamais tant entendu parler dans les dernières années de construction de gros hôpitaux, de super cliniques, de super infirmières, de GMF, de salaire des médecins, en Ontario, mais moi, j'ai pas entendu beaucoup parler des services sociaux, sauf peut-être quand M. Couillard a dit qu'il était capable de faire une épicerie avec 60 $ par semaine, ou que M. Barrette a trouvé que c'était pas mauvais des patates en poudre dans un CHSLD. Mais à part de ça, les services sociaux ont été comme un peu exclus. Fait que la première chose, surtout que c'est dans un contexte d'austérité, faut se souvenir de ça. Fait qu'en même temps, on veut rendre plus efficaces les services médicaux, mais on est dans un contexte d'austérité. Fait que nécessairement, les services sociaux sont les parents pauvres de ça. C'est eux qui ont eu le plus de difficultés. L'autre chose, puis on va y aller tranquillement vers ce que vous cibliez au début, c'est la centralisation. Par exemple, en Estrie, le CIUS de l'Estrie-CHUS, c'est 1,4 milliard de budget, c'est 17 000 employés. On est passé du jour au lendemain, moi, mon établissement qui était à Magog, de 1000 employés, donc je faisais partie de 1000 employés, donc quand j'ai des choses comme employé, comme travailleur social à revendiquer pour essayer de dire, ben écoute, cette famille-là ou ces choses-là de la misère, il faut que je me rende jusqu'à ma direction, mais je la trouvais déjà loin, mais là, ma direction est rendue à Sherbrooke. C'est 17 000 employés en avant de moi. Fait que loin des yeux, loin du cœur, il y a une espèce de centralisation. Les décisions se prennent à partir des centres régionaux et descendent jusqu'en bas. C'est une culture qu'on appelle du top-down. Ça descend par en bas. Fait que le temps que les préoccupations du terrain montent en haut et soient prises en considération, c'est très, très long et très difficile. En plus de ça, une grosse centralisation comme ça, ce que ça l'amène, c'est que c'est une grande bureaucratie puis une grande technocratisation. Ça veut dire que pour être capable de faire un suivi, parce que, tu sais, 17 000 employés, il faut que tu fasses un suivi administratif, ben, t'outilles le monde, les intervenants, les travailleurs sociaux, d'un paquet de grilles d'outils. Ils complètent plein de choses, ils sont obligés de dire qui ils ont vu, quand ils l'ont vu, combien de fois ils l'ont vu, quand est-ce qu'ils pensent cesser de le voir. Ils sont obligés de prendre des grilles pour évaluer ça. Tout ça les éloigne de la population. Tous ces outils-là servent d'abord au suivi administratif. Fait que cette centralisation-là, quant à moi, ennuie beaucoup, beaucoup. On est dans des protocoles de soins. Maintenant, les travailleurs sociaux, par exemple, doivent faire un tel nombre d'entrevues par jour. Mais ça, qu'il y ait ou pas le besoin de la clientèle, il faut qu'ils fassent ça. Par exemple, il y a une travailleuse sociale qui m'a dit, il n'y a pas tellement longtemps, écoute, moi, je suis obligé de faire 5 rencontres, dont 2 téléphones dans ma journée à travers tout ce que j'ai à faire parce que j'ai beaucoup de paperasse à faire, puis c'est peut-être plus que ça. Fait que dans l'après-midi, il manque, pour mes stats, il manque un téléphone. Fait que là, je regarde qui je peux téléphoner pour faire ma stat. Nonobstant le besoin de la personne, me suivez-vous? Donc, cette technocratisation-là rend les intervenants de plus en plus des distances des populations, des clientèles vulnérables.
OK. Ce que je sais, oui. Là, c'est que vous n'avez pas fait de dossier DPJ comme tel. Vous êtes travailleur auprès de familles démunies, mais la DPJ, oui. Quand même, vous l'avez croisée dans vos démarches auprès de ces gens, oui. Là, qui avaient des problèmes.
Oui.
C'est comme si, là, tout le monde fait sa job selon les normes, selon, comme oui. vous dites, le protocole.
Oui.
Le juge va regarder le cas, puis il va oui. dire, je pense que l'enfant peut aller là, mais voici les conditions. Il faut que cet enfant-là soit suivi, il faut qu'il ait accès à des spécialistes. Tout le monde est d'accord sur papier, mais dans l'application, ça n'arrive pas.
Oui. Oui, c'est vrai. Il faut remettre en contexte. Les gens, les travailleuses sociales, particulièrement de la DPJ, avec qui j'ai travaillé effectivement, sont parfois en souffrance. Ils travaillent beaucoup. Ils ont des charges de cas très, très lourdes. C'est très, très difficile. Avec une clientèle qui est très, très difficile, c'est vrai. Et l'autre chose qu'il faut considérer, c'est qu'avec 100 000 signalements par année, une augmentation d'à peu près 8 % des signalements chaque année au Québec, ça fait de la pression immense sur les intervenants. Mais l'affaire qui est la plus importante, quant à moi, là-dedans, c'est que c'est pas nécessairement au niveau de la protection de la jeunesse puis des procédures de protection de la jeunesse c'est sûr qu'ils vont intervenir pour leur donner plus de ressources, mais c'est avant. C'est avant qu'on ait besoin de faire des signalements. Il faut qu'on soutienne les familles pour pas qu'on ait besoin de faire un signalement pour qu'il y ait des interventions. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que ça marche parce qu'on augmente tout le temps les signalements. Fait que ce qu'il faut faire, c'est être capable d'intervenir dans le soutien aux familles avant. Puis cette réforme-là, elle a sabré aussi dans le soutien aux familles.
OK, mais donnez-moi un exemple de ce que c'est d'intervenir auprès des familles avant qu'il y ait un signalement à la DPJ. Vous pensez à quoi quand vous me dites ça?
Bah, je pense par exemple aux travailleurs sociaux dans les écoles. Qui, mettons, la direction d'école avoir un enfant qui a des difficultés, il faut qu'il y ait un travailleur social, il faudrait qu'il y ait un travailleur social à l'école, pas loin, qui puisse déjà intervenir, déjà entrer en contact. Je pense aux travailleurs sociaux, ça s'appelle la première ligne sociale, ça s'appelle le travailleur social de proximité. Je pense aux travailleurs sociaux dans les CLSC qui reçoivent un appel d'une mère qui dit hey, « moi, j'en peux plus, mon fils a des troubles du comportement », puis qui est capable, parce qu'il a le temps, puis que c'est sa job, d'aller la voir, cette mère-là, chez elle, puis de jaser avec elle. Je pense à des gens, par exemple, qui viennent de se séparer, puis qui ont des difficultés à gérer cette séparation-là, qui appellent au CLSC, puis qui ont quelqu'un qui leur répond. Pas quelqu'un qui essaye de voir où est-ce qu'il va les diriger, dans quel petit silo du CIUS pour être capable qu'il y ait des services. Quelqu'un qui les écoute, qui les aide. Ce qui manque, c'est le lien social. Ce qui manque, c'est des services qui permettent d'établir des liens de confiance avec les gens vulnérables puis qui les accompagnent. Pas des procédures puis des protocoles. C'est ça que ça prend. Puis pour ça, il faut qu'on investisse avant les signalements. Il y a un lien, M. Arcan, il y a un lien, pas direct, entre ce qui se passe à la protection de la jeunesse et, par exemple, ce que les pédiatres décrivent comme étant l'augmentation des prescriptions de Ritalin pour les enfants TDAH. Et ce que les jeunes disent dans le mouvement santé mentale jeunesse, qui disent on est tanné d'être psychiatrisé, on veut qu'on soit aidé dans nos difficultés quotidiennes.
Mais ce que vous me décrivez là, en conclusion, oui. c'est des enfants en difficulté, des enfants bon maltraités oui. dans certains cas, oui. qui sont devenus des patients donc oui. à qui on va donner oui. des médicaments, puis évoluent oui. dans une structure comme si c'était oui. un réseau de la santé.
C'est ça, comme si c'était une maladie en fait. C'est la négligence ou les difficultés ou la violence, c'est pas une maladie. C'est une réalité sociale. Puis comment est-ce qu'on traite ça? C'est en créant des liens avec ces gens-là. Pas en attendant qu'ils développent une maladie pour qu'on traite la maladie. C'est ça qu'on est en train de faire, là. Fait qu'il faut qu'on crée des liens avec ces gens-là puis qu'on les aide avant qu'ils soient malades. Puis dans une réalité sociale, c'est ça que ça sert des travailleurs sociaux. Mais là, on a de moins en moins ça. On a de moins en moins ce type de service-là de proximité. Madame McCann parlait avant d'être élue, puis maintenant, de la nécessité de décentraliser. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut décentraliser, il faut remettre des équipes de travailleurs sociaux terrain dans des centres locaux de services communautaires, ça s'appelle des CLSC, ou appelons ça autrement, là, si ça choque quelqu'un, mais ça prend des travailleurs sociaux disponibles dans les milieux de vie des gens pour être capable de créer des liens avec les gens vulnérables avant, au lieu que de les traiter comme des patients.
Merci.
C'est ça qu'il faut qu'on fasse.
Merci, M. Robert. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Martin Robert est travailleur social. Il a démissionné d'ailleurs du CA, de cette première cohorte du CA, du CIUS en Estrie. et donc était intervenu comme gestionnaire puis comme carrément sur le terrain avec des gens qui étaient démunis. Et en passant, avant que vous me posiez la question, oui, c'est le frère de l'agronome Louis Robert, le sonneur d'alerte. Faut croire que c'est de famille. 7h39.